Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Chaque matin, désormais, vous retrouvez un épisode du service politique avec les reporters politiques de BFM TV qui nous racontent dans ce balado les faits de campagne, les événements de campagne qui les ont marqués, des reporters qui suivent les candidats partout, tout le temps. Donc chaque matin, un épisode sur votre plateforme de téléchargement habituelle ou sur l'application ou le site de BFM TV. Ce matin, un épisode avec Agathe Lambret qui suit la campagne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, président et candidat, candidat et président, à deux têtes. Nous sommes le vendredi 12 mars et nous sommes donc à 43 jours du choix des Français. Salut Agathe.
Salut Philippe.
Tu es dans le taxi de retour de Versailles où s'est tenu pendant deux jours le sommet des 27 chefs d'État et de gouvernement. Alors évidemment, c'est la présidence française qui fait que c'est la France qui organise ce sommet, mais c'était dans un contexte particulier lié à la guerre en Ukraine. Un sommet assez exceptionnel dans la gravité des sujets qui ont été abordés, puisqu'on a vraiment l'impression ces dernières semaines d'être à un moment clé de l'histoire européenne. Et tout ça, évidemment, aussi dans un contexte particulier où nous sommes à 4 semaines du premier tour d'élection présidentielle et le président est candidat. D'abord, il y a une image qui restera, je pense, qui est un peu symbolique, mais la conférence de presse tout à l'heure de Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et Charles Michel, le président du Conseil et la présidente de la Commission, a eu lieu dans la même galerie du château où, un mois après son élection, en 2017, Emmanuel Macron avait reçu Vladimir Poutine. D'une certaine manière, c'est le quinquennat diplomatique ou les efforts diplomatiques du quinquennat qui ont été rassemblés ou refermés par ce retour dans cette même salle, symboliquement.
Oui, mais c'est vrai que depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron joue avec les symboles, joue avec les symboles historiques, et Versailles est un symbole, et il l'a utilisé comme d'autres présidents avant lui d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était l'ironie de ce sommet qui avait lieu donc au château de Versailles, de cette conférence de presse commune des dirigeants européens qui avait lieu dans la galerie des batailles, cette même galerie où Emmanuel Macron avait donné une conférence de presse conjointe avec Vladimir Poutine à l'époque. Alors l'Élysée précise que le lieu du sommet avait été choisi avant la guerre,
bien sûr.
Parce qu'effectivement ce sommet était prévu dans le cadre de la PFUE, de la présidence française de l'Union européenne. Et puis galerie des batailles, c'est aussi un nom qui évoque beaucoup de choses au moment où il y a une guerre aux portes de l'Europe. Et Emmanuel Macron y a fait référence d'ailleurs tout à l'heure.
Et d'ailleurs, Versailles, c'est un lieu historique non seulement pour l'histoire de France, évidemment, mais aussi pour l'histoire de l'Europe. C'est là où a été négocié et signé le traité à l'issue de la Première Guerre mondiale, un traité qui a été jugé par certains pays européens comme punitif pour l'Allemagne. C'est aussi un lieu important pour l'histoire de l'Allemagne, puisque c'est là, en 1871, qu'a été proclamée la naissance de l'Allemagne. Donc tout ça fait de Versailles un lieu important de l'histoire européenne. Donc,
Et le traité mettant fin à la Première Guerre mondiale
Absolument.
A été signé Galerie des Glaces, là où, hier, les chefs d'État et de gouvernement ont dîné et ont travaillé pendant plusieurs heures.
J'y pensais hier, puisque j'étais à l'antenne. Toi, tu étais à Versailles, moi, j'étais en plateau. Mais quand on jouait en direct l'arrivée des différents chefs d'État et de gouvernement pour le début du sommet à Versailles, et je voyais ces pays, notamment des pays d'Europe de l'Est, nés aussi dans l'indépendance ou dont l'histoire politique a été marquée par le traité de Versailles, et le fait que ces dirigeants reviennent à Versailles dans ce moment particulier de l'histoire de l'Europe n'était pas anodin, je pense, pour les gens qui regardaient aussi depuis ces pays-là. Est-ce que le président, parce que il a parlé hier, il a parlé aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a frappé dans ses propos, et notamment dans le ton de ses propos dans ce contexte de la guerre en Ukraine, un ton très grave, évidemment.
Oui, et ce qui m'a frappé, alors c'est aussi parce que j'ai posé la question, mais pendant la conférence de presse, j'ai interrogé Emmanuel Macron sur le fait que l'Union européenne n'accepte pas de procédure accélérée pour une adhésion de l'Ukraine, mais simplement une porte ouverte, et je lui ai rapporté la réaction de Zelensky, qui a tout de suite dit que c'était pas à la hauteur des enjeux et qu'il fallait des décisions plus fortes, et je lui ai demandé ce que ça lui faisait comment il vivait ces reproches quasi quotidiens maintenant du président ukrainien. Et en fait, il n'a pas répondu sur ce point, mais je pense qu'en fait, les dirigeants européens, malgré leur bonne volonté, leurs efforts et leurs sincères émotions, sont en ce moment assez impuissants et qu'ils sont humains et que ça les touche, quoi. Donc Emmanuel Macron a préféré répondre à la question d'après plutôt que de répondre à celle-là, parce que je pense que c'est difficile, sachant qu'en plus il a noué un rapport très quotidien en fait avec Zelensky. Il se parle tous les jours, il peut pas nier le fait que il ne répond pas à ses demandes et que l'Europe ne répond pas à ses demandes, notamment de fermeture du ciel ou d'adhésion à l'Union européenne. Ce sont des choses que l'Union européenne ne peut pas accepter. Donc en fait, c'est assez terrible comme situation en fait. Alors même s'ils disent qu'ils peuvent accentuer les sanctions contre Vladimir Poutine, on a vraiment l'impression d'être dans une impasse finalement.
Oui, et puis c'est vrai que à la fois ce sommet a marqué une accélération de l'histoire de la construction européenne, puisqu'on voit que sur de nombreux sujets, et c'était présent dans ce sommet, les pays européens, les 27, vont devoir aller plus loin, être plus forts sur différents domaines, notamment dans une forme d'indépendance vis-à-vis de la Russie, dans une forme de souveraineté sur les questions économiques, sur les questions militaires. Enfin, on voit bien qu'il y a une accélération du temps ces dernières semaines. L'Europe a fait des pas spectaculaires ces dernières semaines et ce sommet cristallisait ça. Et en même temps, dans l'immédiateté, ce sommet ne change pas grand-chose pour les Ukrainiens qui sont aujourd'hui, qui se défendent vaillamment face à l'avancée de l'armée russe. Donc il y avait un décalage d'une certaine manière. C'était à la fois un sommet historique
et un sommet... Entre l'émotion et la capacité, quoi. Entre la volonté et les moyens. C'était un sommet qu'on nous vendait comme le sommet du sursaut, le sommet de la souveraineté européenne. Ouais. Et en fait, c'était surtout un sommet qui était centré sur les problèmes européens.
Bien sûr.
Parce que en fait, quelle réponse de l'Europe, comment augmenter notre défense, notre indépendance énergétique notamment. Mais finalement, et puis il y avait un décalage entre cette émotion vis-à-vis de l'Ukraine et bien le fait qu'on puisse pas faire plus finalement.
Ouais. D'ailleurs, il y a une autre chose qui m'a frappé dans la conférence de presse. Alors, il l'avait déjà dit, notamment dans son allocution aux Français, il me semble. Le président de la République dit « Nous ne sommes pas en guerre », et ça correspond à ce que disent différents pays européens, ce que disent les États-Unis, évidemment, la volonté de montrer que nous ne sommes pas des belligérants ou des co-belligérants de cette guerre avec la Russie. Donc le président dit « Nous ne sommes pas en guerre », et en même temps, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, Emmanuel Macron disait, à propos du Covid, ça n'a rien à voir, mais sa phrase avait marqué, il avait dit « Nous sommes en guerre ». Et je pense à cette phrase parce que
c'est décalage.
Oui, c'est décalage, c'est-à-dire que au fond, le mot guerre qui avait été utilisé, qui avait frappé les esprits des Français, ça avait parfois été critiqué d'ailleurs il y a 2 ans parce que notamment d'autres gouvernements comme le gouvernement allemand disaient mais nous ne sommes pas en guerre, nous devons faire face à une pandémie mondiale, mais c'est pas une guerre. Et là aujourd'hui, il y a la guerre à nos portes. Et le mot, en fait, je pense à ça parce que dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce mot guerre a été présent à plusieurs moments. Et là, on arrive à une situation où la vraie guerre, elle est à nos portes. On voit quelles sont les conséquences et on sent bien la gravité du mot, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment.
Oui. Emmanuel Macron est un président qui a le sens du tragique depuis le début, il nous l'a montré. Et c'est vrai qu'il avait employé ce mot « guerre » à l'époque du Covid. Et oui, ça lui avait été reproché. Et paradoxalement, alors que il y a une guerre en Europe, il dit qu'il n'y en a pas. Maintenant, politiquement, évidemment, qu'il peut pas. Enfin, les conséquences seraient absolument énormes s'il déclarait qu'on était en guerre contre la Russie. Donc, évidemment, il ne peut pas le dire. Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, il insiste sur ce terme et sur le fait que nous ne sommes pas en guerre aujourd'hui.
Il reste 4 semaines avant le premier tour de la présidentielle, à peine plus de 2 semaines avant l'égalité du temps de parole qui va figer d'une certaine manière l'expression des plus grands candidats. Le président, là, rassemble les Européens à Versailles, a encore des appels, des coups de téléphone avec des dirigeants, notamment, je crois, le président Poutine en même temps que le chancelier Scholz. On voit mal comment, dans les prochaines semaines, toi qui vas suivre la campagne du président Macron, comment il va avoir le temps et comment il va avoir le temps de faire campagne et même la possibilité de faire entendre, de faire passer des messages politiques au milieu de messages solennels sur la situation en Ukraine. On a du mal à imaginer dans les 4 semaines que nous allons vivre.
Bah, oui, et puis il y a une sorte de schizophrénie pour lui, pour ses équipes, pour les journalistes. Un jour on suit le président, l'heure d'après on suit le candidat. Absolument. C'est vrai que c'est assez étonnant, et puis même ce contraste entre, par exemple, aujourd'hui un événement vraiment très grave. Enfin, c'était quand même un sommet européen de 2 jours consacré aux conséquences de la guerre en Ukraine. Et nous sommes vendredi, et c'est le jour où le chef de l'État candidat a prévu de publier le 2e épisode de sa série Le Candidat. Il en avait publié un la dernière fois, donc ça, c'est vraiment un épisode de candidat hein, dans lequel il adopte un ton un peu décalé. Enfin, la scénarisation est décalée par rapport à un président. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Il y a un mélange des genres parfois. Là, on lui a demandé d'arrêter aussi de tweeter avec son compte Twitter personnel. Et il ne peut plus tweeter maintenant tout ce qui a trait à sa campagne. Donc c'est un autre compte qu'il relaie. Mais ça montre bien que la frontière est très ténue, parce que finalement, le compte d'Emmanuel Macron, c'est le compte du président. Et on peut dire aussi le compte du candidat.
Bien sûr.
Mais c'est compliqué de s'y retrouver.
On en a parlé dans d'autres épisodes cette semaine du service politique. Il y a eu un effet drapeau spectaculaire, encore plus fort qu'on aurait pu l'imaginer, où il a pris dans certaines études 6, 7, parfois 8 points dans les intentions de vote. Il est au-delà de 30% dans la plupart des études maintenant. Donc il semble non seulement incontournable au second tour, on voit mal comment un autre candidat pourrait, deux autres candidats pourraient l'empêcher d'être au second tour, et par ailleurs évidemment largement favori aussi pour le résultat final du second tour, puisque dans toutes les enquêtes d'opinion maintenant, ou dans plusieurs enquêtes d'opinion, il est au-delà de 60% de votes au second tour face à tous ses rivaux, y compris Marine Le Pen qui était donnée à 45% dans certaines études encore il y a 15 jours, 3 semaines. Donc,
oui, même si ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. D'un côté, c'est vrai qu'on se dit qu'il a un matelas assez confortable, et il peut se permettre de ne pas faire campagne ou de choisir les événements qu'il veut faire avec les Français, avec les journalistes, de trier un peu ses événements de campagne, vu qu'il pourrait se dire qu'il n'en a pas vraiment besoin. Et en même temps, ça inquiète aussi certains de ses proches, parce qu'il ne veut pas seulement être réélu, il veut être bien réélu, et il veut être légitime. Donc en fait, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas réélu uniquement par un effet drapeau. Ça pourrait lui être reproché ensuite. Par ailleurs, on ne peut pas savoir quelle sera l'abstention.
Enfin, attends, je t'arrête. Ça ne les inquiète pas quand même. On ne peut pas dire qu'ils sont inquiets. Ils doivent être plutôt, confiants sur l'issue du résultat, non ?
Oui, mais l'enjeu, ce n'est pas juste de gagner, c'est de bien gagner, Philippe. Tu vois. Et il faut faire attention aussi au fait que les troupes restent humbles. Donc en fait, ce qui peut les inquiéter, c'est un phénomène un peu de melon. Ils ne veulent pas montrer un camp prétentieux qui pense que c'est acquis. Donc ils font très attention à montrer l'image d'humilité. Emmanuel Macron l'a bien répété devant les parlementaires, devant les gens de son QG. Rien n'est acquis, il faut faire campagne et il faut être bien réélu. Et c'est vrai que c'est un enjeu. Parce que d'une part, on ne sait pas quelle sera la participation. On a vu qu'elle battait quand même des records récemment. Et on lui avait reproché en 2017 aussi de pas avoir été très bien réélu avec une participation assez faible. Donc d'une part, on ne sait pas quelle sera l'abstention. Et puis dans un second tour, il faut qu'il ait de la marge en fait. Et il va certainement être confronté à la droite, et la droite qui a des réserves. Quel que soit le candidat de droite face à lui, il aura aussi beaucoup de réserves pour un second tour. Et si Emmanuel Macron est élu avec 52% des voix, c'est pas brillant, c'est pas exceptionnel. Donc, enfin, faut pas quand même sous-estimer le manque d'élan que ça pourrait donner à son second mandat. Par ailleurs, derrière, il a besoin d'une majorité solide, il veut faire des réformes. Enfin, il a besoin d'être bien réélu, et pas juste parce qu'il y a une guerre en Ukraine et que soudain les gens se disent on va voter pour lui.
Justement, à propos de réforme, cette semaine, La campagne Macron a fait fuiter, puis a confirmé que le projet qu'il va présenter aux Français, c'est de faire passer de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, et pas 64 comme certains l'imaginaient. Donc 65 ans, c'est la même chose que Valérie Pécresse. Le fait qu'il sorte cette carte maintenant, alors qu'il est très haut dans les sondages, ça peut avoir des effets aussi sur ses rivaux, puisque d'une certaine manière, ça coupe l'herbe sous le pied de Valérie Pécresse. Indirectement aussi peut-être Éric Zemmour qui lui propose 64 ans. Et donc pour un électorat de centre droit, il montre qu'il est plus réformateur qu'Éric Zemmour, voilà. Marine Le Pen, elle, même si elle a changé sa position, ne propose plus la retraite à 60 ans. Bref, d'une certaine manière, ça la remet quand même dans le jeu, dans le débat politique. Et surtout, c'est formidable pour Jean-Luc Mélenchon. J'en ai parlé avec lui. Lui me disait, mais cette annonce, c'est cadeau, quoi, parce que pour le coup, lui, il peut mettre en place une forme de confrontation, refus de la retraite à 65 ans. Voilà, c'est un slogan formidable pour Jean-Luc Mélenchon. C'est le fait qu'il choisisse d'abattre une carte politique comme ça, alors même qu'il est pris par les calendriers internationaux, est-ce que ça montre, selon toi, qu'il va faire campagne, alors peut-être pas lui directement, c'est pas dans un discours que ça a été annoncé, mais c'était dans la presse, et qu'il va y avoir une campagne, pas virtuelle, mais une campagne qui aura lieu, peut-être pas par le candidat lui-même qui irait annoncer telle ou telle chose à la télévision ou dans un meeting, mais que le débat va avoir lieu, parfois sans lui physiquement, mais le débat va avoir lieu.
Bah, exactement, mais c'est ce qu'il est en train d'installer. Quand il est allé au QG, il a dit à ses soutiens, à ses militants, allez faire campagne, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous fassiez campagne, parce que moi je pourrais pas faire campagne totalement. Cette annonce de la retraite à 65 ans, elle a fuité dans la presse, et ensuite qui l'a confirmé, c'est Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, qui n'est même pas officiellement le porte-parole du candidat, et c'est quand même une annonce très importante. Mais absolument. Emmanuel Macron l'a délégué, cette annonce. Il l'a délégué, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que dans cette campagne, il va être délégué. Et en même temps, le personnage principal, évidemment, c'est lui. Et d'ailleurs, vu le contexte de guerre et de campagne très courte qu'il ne pourra pas faire pleinement, il n'a pas fait ce qu'il avait envisagé de faire, c'est-à-dire de faire sortir quelques ministres de son gouvernement pour diriger sa campagne. Gabriel Attal aurait pu être son porte-parole, Julien de Normandie aurait pu quitter le gouvernement pour être son directeur de campagne. Finalement, vu l'actualité, tout le monde reste au gouvernement parce qu'il faut montrer que le gouvernement est mobilisé en temps de crise. En revanche, ça n'empêche pas ces ministres qui étaient pressentis pour quitter le gouvernement, évidemment, d'avoir un rôle de conseiller politique ou de relais de la parole ou même de direction officieuse de la campagne.
Oui, et d'ailleurs, puisque tu faisais allusion à cet entretien de Gabriel Attal confirmant ce qui avait fuité dans la presse sur la retraite à 65 ans, dans le même entretien, c'était sur RTL, je crois, cette semaine, dans le même entretien, il répond au nom du gouvernement français, ou il commente, ou plutôt, comment dire, il donne au nom du gouvernement français la position de la France sur l'attaque par les Russes de la maternité de Mariupol. Et donc il parle là au nom du gouvernement français, et quelques minutes plus tard, il répond à une question sur la retraite à 65 ans et confirme ce qu'il aurait pu, balayer en disant je ne suis pas là pour commenter ou pour confirmer ceci ou cela. Et il a confirmé là au nom d'une certaine manière de la campagne Macron ou du candidat Macron, ce qui va être un élément central de sa campagne et peut-être s'il est réélu des premières semaines de son second mandat, c'est-à-dire une retraite à 65 ans qui va peut-être mettre beaucoup de monde dans la rue et qui va être une réforme majeure d'un éventuel second mandat.
Oui, totalement. En fait, Gabriel Attal a un rôle un petit peu hybride parfois dans cette drôle de campagne. Parce que on avait un peu l'impression qu'il s'exprimait comme porte-parole du candidat et pas comme porte-parole du gouvernement.
Donc une campagne hybride pour le président candidat ou le candidat président.
Pour le candidat hybride.
Ah, mais le candidat, lui, n'est pas hybride. Il est plutôt à deux têtes, tu veux dire. Président et candidat.
Oui, à deux têtes. Oui, c'est ça. C'est le candidat à deux têtes. Janus.
Exactement. Je crois qu'on va appeler le podcast comme ça, alors. Le candidat à deux têtes. On va faire ça. Merci, Agathe.
Non, je t'en prie, je vais juste rajouter un truc. Parce que tout à l'heure, quand tu t'es retenu sur Macron et la guerre, et je te disais qu'il avait le sens du tragique, et tu remarquais que la guerre était quand même assez présente dans son mandat, et c'est vrai que c'est frappant, et en même temps assez paradoxal, parce qu'Emmanuel Macron est le seul chef d'État français de la Ve République qui n'a vraiment pas connu la guerre. Il est même né après l'indépendance de la guerre d'Algérie. Et pourtant, malgré ça, il a tout fait depuis le début de son mandat pour montrer qu'il endossait l'histoire, qu'il endossait le passé. Il est revenu sur beaucoup d'événements, et en particulier la guerre d'Algérie, pour faire regarder l'histoire en face, comme il le disait. Mais il a vraiment un souci de l'histoire absolument constant et permanent, et certainement aussi un souci de laisser lui-même sa trace dans l'histoire.
Même si, il fait référence, il y a fait référence à plusieurs reprises, et encore, je crois, aujourd'hui, sur la phrase le retour du tragique dans l'histoire. C'est une référence indirecte à Raymond Aron, mais par définition, le tragique ne quitte jamais l'histoire. Donc c'est pas un retour du tragique, c'est que le tragique n'a jamais quitté l'histoire. Mais bon, c'est un débat différent qu'on ne va pas
conclure ici. Pour le coup, ce mandat et la vie des Français depuis 5 ans a quand même été marqué par des crises assez inouïes.
Oui,
ça
mais
je ne pas que Macron. Je pense que beaucoup de gens ressentent quand même qu'on a vécu des choses très graves.
Oui, mais regarde, le mandat du président Hollande avait été marqué par une série d'attentats en France qui avaient aussi bouleversé non seulement les Français, mais bouleversé notre vie quotidienne. Et vraiment, il y avait une tension incroyable dans le pays. Et on peut faire référence, même si ça n'a rien à voir, à la crise financière sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et Jacques Chirac, qui a été candidat en 2002, et finalement réélu, mais candidat en 2002, quelques mois après le 11 septembre, et alors que la France faisait la guerre, la vraie guerre, en Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y avait des soldats français qui se battaient en Afghanistan suite au 11 septembre, pendant que Jacques Chirac menait campagne en 2002 pour être réélu.
Et je ne parle même pas de François Mitterrand. Tu as totalement raison. Mais il y a une forme certainement de résilience, et pour les jeunes qui n'ont pas connu ces moments-là, peut-être aussi un sentiment d'accumulation récemment. Mais c'est vrai que le tragique n'a jamais disparu.
Merci Agathe.
Merci Philippe. Salut.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain.